Philosophie éthique, l'éthique chrétienne, par le père Marie-Dominique Philippe, le 16 avril 1999 à Saint-Jodard.
L'éthique chrétienne, puisqu'après, on entrera dans l'aspect politique. Quelques aspects, parce que y a-t-il une politique chrétienne? C'est important. Entre dans le point de vue philosophique. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'une éthique chrétienne, c'est capital. Et c'est par là, de fait, qu'il y a une fin nouvelle qui n'est pas en opposition avec la fin. Mais qui détermine cette fin humaine d'une manière très forte, la vision de Dieu comme fils bien-aimé du Père. C'est tout le patrimoine du Père qui est donné et qui transforme notre éthique, qui transforme notre finalité. C'est net. Alors je crois qu'il y a toujours trois points de vue qu'il faut bien distinguer. La théologie morale, c'est la théologie tout court. La distinction entre théologie morale et théologie dogmatique est une distinction qui vient du 17e siècle, qui n'est pas normale. Et ils ne sont pas dans Saint-Thomas. Vient de la révélation. Et il n'y a pas, au point de vue révélation, une distinction entre le point de vue spéculatif et le point de vue pratique. Parce que le point de vue révélé est éminemment pratique, tout en étant spéculatif. Il est avant tout contemplatif. Spéculatif, c'est-à-dire contemplatif. Quelque chose qu'on ne fait pas, mais qu'on reçoit. Quelque chose qui nous oblige de nous mettre relatifs à ce qui est révélé. Donc, il y a la théologie scientifique de Thomas d'Aquin qui inclut une théologie morale. Et il y a le mystère de la très sainte Trinité qui inclut une théologie contemplative. Et puis il y a l'éthique chrétienne. Et l'éthique chrétienne est importante, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Elle va plus loin qu'une apologétique. Puisque l'éthique chrétienne fait le pont entre l'homme philosophe et le chrétien. Mais c'est toujours en référence à l'homme qu'on regarde ce que la révélation apporte à l'homme, non pas ce que la révélation est en elle-même. Mais ce qu'elle apporte à l'homme, c'est là l'éthique chrétienne. Vous voyez ? C'est montrer que la révélation est pour l'homme. La révélation étant pour l'homme, Jésus est mort pour le salut de l'homme. Qu'est-ce que cette révélation apporte comme développement de l'homme ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Nouvelle dimension à la personne humaine. À la personne humaine chrétienne. voyez, on voit tout de suite, c'est une finalité substantielle, toute nouvelle. Et à partir de là, il y a ce fait que certains chrétiens désirent suivre le Christ d'une manière plus prochaine, plus immédiate, la vie religieuse, qui dépasse le point de vue religieux, qui nous met en présence d'une éthique à partir des béatitudes évangéliques, mais qui transforme toute notre vie humaine. Vir evangelicus, saint Dominique, et saint Dominique vit d'une éthique chrétienne. Vir, ça reste homme, evangelicus, c'est divin. Donc c'est une éthique chrétienne. Une éthique chrétienne va plus loin que l'apologétique, parce que l'apologétique montre que l'apport surnaturel ne va pas contre l'apport humain. C'est le souci constant de l'apologète. Tandis que l'éthique chrétienne montre non seulement l'harmonie, mais l'apport de la révélation sur l'homme. Et ce qui permet à montrer que cette éthique chrétienne dépasse toutes les autres éthiques. Mais on ne fait pas ça par mode apologétique. On fait ça comme constatation. Ce que l'apport de la révélation permet à l'homme d'être plus homme. Et une éthique chrétienne met en pleine valeur toutes les qualités humaines. Et leur permet d'aller beaucoup plus loin que c'est simplement une éthique religieuse. Une éthique religieuse reste humaine. Une éthique chrétienne est plus qu'humaine. Elle vient du Christ. Et c'est la manière dont le philosophe peut regarder la transformation de l'homme nouveau. L'homme baptisé est un homme nouveau. Il est baptisé. Et le baptême lui donne une grâce qui l'unit au Christ. Et par le fait même, c'est tout le mystère du Christ qui est donné à l'homme. Pour que l'homme ait un regard nouveau, le regard du Christ surtout, sur la vie humaine, sur l'âme humaine, sur les vertus, sur la finalité surtout. Et l'éthique chrétienne demeure ce point de vue philosophique, puisque je regarde ce qui permet dans la révélation d'actuer ce qui resterait sans la révélation sous un mode de puissance obédientielle en attente. L'éthique chrétienne actue cette attente et montre que l'homme, en s'appuyant sur le Christ, peut aller beaucoup plus loin. Mais en s'appuyant sur le Christ, vous voyez, il y aurait, je crois, quelque chose d'intéressant à voir. Comment, dans l'éthique grecque, Socrate a joué un rôle très important. Et la mort de Socrate a joué un rôle très important d'ouverture. De la mort de Socrate est née de fait plusieurs éthiques différentes. L'éthique aristotélicienne, qui se veut plus proche de Socrate que l'éthique platonicienne. Aristote le dit, je suis plus proche de Socrate que Platon. doit intéresser le philosophe. Le philosophe s'intéresse à tout génie, à tout homme qui a une dimension nouvelle, qui lui permet de développer l'homme dans un sens. Et tout philosophe, ami de la sagesse, devrait s'intéresser à la vie de Jésus, à l'enseignement de Jésus, et à regarder si cet enseignement permet à l'homme d'être plus homme, et comment il permet à l'homme d'être plus homme. Je crois que le monde d'aujourd'hui sera très ouvert à ça. Et donc il faut que nous distinguions la philosophie et puis la vision propre, morale, humaine de Jésus, et l'intégrer dans notre philosophie, et surtout dans notre philosophie morale, dans une éthique chrétienne. Je crois ça très important, puisque le philosophe a comme devoir de s'intéresser à tout homme. Tout homme qui apporte quelque chose. Et évidemment, je crois que aujourd'hui, celui qui regarde l'éthique humaine doit s'intéresser à toutes les religions. Et à tous les fondateurs de religion, pour comprendre comment le rapport peut apporter quelque chose de positif. Mais ce n'est pas l'apologétique, mais c'est un regard beaucoup plus objectif sur les différents systèmes philosophiques et voir leur influence sur l'homme. C'est pour ça que ça a véritablement un intérêt pour nous, en tant que philosophe, de regarder Jésus, en tant que philosophe, de lire les évangiles. Ce sont des documents qui ont leur valeur historique, comme le Christ sa valeur historique d'homme. Et on doit pouvoir regarder éthique, l'éthique de la préparation au Christ, l'éthique du Christ et des Christ après l'Église. Ceci pour mieux comprendre comment l'éthique chrétienne doit assumer tout ce que la science peut me dire de nouveau sur l'homme, sa finalité, sa manière d'utiliser son développement et les dimensions propres de son conditionnement. Il y a un conditionnement nouveau pour l'homme avec le XXe siècle, ça c'est sûr. Et ce serait très intéressant de montrer ce conditionnement nouveau. Vous voyez, ça devrait être une étude pour moi du métaxus, où chacun, avec sa perspective philosophique et sa perspective sur le Christ et sur l'Église, montre un point ou l'autre, où le Christ, la personne du Christ, où l'Église peut et doit apporter une lumière sur l'homme et vraiment le faire non pas dans une perspective apologétique, mais de le faire dans une perspective réaliste, des choses indiscutables, et pas trop vivre tout de suite d'un jugement de valeur, mais posé par rapport à notre philosophie sur l'homme. Dans notre philosophie sur l'homme, on n'a pas parlé du Christ. C'est vrai. Et on pourrait faire une étude sur ce que Jésus apporte à l'homme, ce que l'Église, dans sa fidélité à Jésus, apporte à l'homme. Et là, je crois qu'il faut agir par mode de recherche, en vue de pouvoir faire quelque chose qui serait intéressant. Que même quelqu'un qui n'est pas croyant puisse le lire et puisse dire oui, c'est vrai, il y a quelque chose d'important pour l'humanité. Vous voyez, parce que l'apologétique, elle n'est supportable que par le converti. Donc elle ne convertit personne. Tandis que là, ce serait dans le domaine de la connaissance objective et philosophique. On peut montrer la grandeur de Jésus. On peut montrer la grandeur de l'éthique chrétienne. Et cela, je crois, actuellement, où le positivisme n'a plus du tout le même impact chez les savants. On me l'a dit l'autre jour. Quelqu'un qui est très, très objectif. Il m'a dit, les grands savants ne sont plus positivistes. Mais les grands savants cherchent une philosophie qui puisse prolonger leur recherche. Ils ne la trouvent pas. Seule une philosophie réaliste peut respecter pleinement les conclusions scientifiques, les respecter et montrer ce que ces conclusions scientifiques peuvent changer au point de vue de mon désir d'atteindre la fin. D'atteindre la fin qui m'est donnée. Parce que si ces conclusions scientifiques sont en opposition vis-à-vis de ma fin surnaturelle, évidemment, ils ne peuvent pas m'apporter grand-chose. Et là, c'est très délicat. Parce qu'il ne s'agit pas de le faire apologétiquement. Il s'agit de le faire philosophiquement. C'est-à-dire en respectant les faits, en respectant l'expérience humaine, et en essayant de traduire cette expérience humaine, la traduire dans un langage philosophique. Là, il y a un secteur qui doit vous intéresser. Et moi, j'aimerais qu'à travers toutes vos études, ce secteur reste ouvert. Et vous puissiez le compléter par un autre. Et puis, comme ça, on arrive à comprendre ce que Jésus. Parce que l'apologétique n'apporte rien. Elle humilie les autres. Elle n'apporte rien. Or, ce n'est pas en humiliant les autres que vous arriverez à les convertir. Jamais. Dans un monde comme le nôtre. Jamais. Tandis qu'au contraire, si vous montrez ce qu'il y a de positif chez eux, et que ce positif est souvent arrêter en fonction d'une exagération, comme si la science devait gouverner l'homme, l'humain. La science est un élément de l'humain, mais il n'est pas l'humain, puisque l'humain se prend toujours de la finalité, et directement de la finalité. N'est humain que ce qui me conduit à ma finalité. Alors, ce qui est humain implique providentielle. Ce sont les éclosions possibles du côté art, culture, du côté intellectuel, du côté amour d'amitié. Ce sont tous les points sur lesquels il faut être sensible à ce progrès possible, à cet épanouissement possible, et ne pas être en opposition en disant « on l'a jamais fait, donc il ne faut pas le faire ». Non, on ne l'a jamais fait, donc il faut se demander si ce n'est pas quelque chose qu'on a laissé de côté. Et ça, c'est une attitude intérieure, vous voyez, pour quitter l'apologétique et entrer dans l'éthique chrétienne, au très grand sens. Donc, ça doit rester un chantier pour vous, qui accompagne toute votre vie. Parce que c'est important. Moi, j'aimerais beaucoup, vous voyez, que dans l'école Saint-Jean, il y ait une recherche constante vis-à-vis de cette éthique chrétienne. Qu'est-ce qu'un homme cultivé d'aujourd'hui peut dire sur Jésus, vu dans la lumière des quatre vivants de l'Apocalypse ? Vu dans la lumière des quatre vivants. Là, il y a une lumière philosophique qui nous fait comprendre la grandeur de Jésus, la stature de Jésus. Et dès que je touche le point de vue de la finalité, alors immédiatement, que peut m'apporter cette nouvelle finalité ? L'éthique chrétienne a donc pour nous cette très grande importance parce que c'est par la personne de Jésus qu'on peut intéresser le philosophe à voir ce qu'il dit. Et là, je crois que très souvent, les philosophes chrétiens n'ont pas assez d'audace, manquent d'audace. Parce qu'ils ont peur de parler de Jésus. Il n'y a rien de déshonorant de parler de Jésus. Au contraire, ça fait honneur à notre humanité de parler de Jésus. Savoir qu'un homme a agi comme ça. Avec cette ampleur de vue, ce regard si miséricordieux et si profond et si intime. Alors là, je crois qu'il faut supprimer cette espèce de fausse honte qui fait qu'on a peur, si on est philosophe, de parler de Jésus. Il faut bien noter qu'on en parle en tant que philosophe. Ou alors, aider des laïcs, c'est encore mieux, à faire une philosophie sur Jésus. Ça devrait être un des buts sur la formation des laïcs. Les former à être de vrais philosophes. C'est-à-dire à saisir vraiment l'homme dans toutes ses dimensions et regarder les dimensions du Christ. Alors évidemment, on trouvera des dimensions du Christ qui sont propres à lui et qui ne peuvent intéresser qu'un philosophe. Et voir ce que nous pouvons dire et ce que d'autres peuvent dire. Quand on regarde la manière dont la foi peut transformer ou la vient de diminuer le rôle de l'amitié, augmente ce rôle. Mais le puits, il y a toujours un danger dans l'amitié humaine, comme dans toute éducation humaine, de se l'approprier. Il y a toujours un danger de s'approprier la vie et de faire que l'ami ne soit qu'un prolongement de soi, ce qui est très mauvais. L'ami doit être une personne ayant son autonomie, ayant sa recherche de vérité, ayant sa capacité d'aimer. L'ami est un ami, et plus l'ami est l'ami, plus il doit connaître son originalité, qui vient compléter l'ami dans l'unité. Si l'ami imite l'ami, il est un double, et donc il empêche la complémentarité. Il ne permet pas à ce moment-là de montrer comment la charité intensifie le côté humain de l'amitié et approfondit ce côté humain de la charité. Vous voyez, le souci que nous devons avoir en philosophe et dans la formation philosophique, il est très bien montré par le Saint-Père dans sa lettre encyclique. La recherche de la vérité, impitoyable, tant au point de vue historique, preuve historique, on doit respecter les grands historiens qui ont un sens très fort de remettre en lumière tel ou tel événement. Ça doit nous intéresser. Parce que aujourd'hui, on désire tellement que tout le monde suive en répétant le slogan. Alors qu'il faut suivre en développant et en montrant un aspect nouveau. Nouveau dans le même sens, la même finalité. Parce que chaque génération apporte quelque chose de nouveau sur le regard de l'homme. Et donc, si l'ami n'est pas de la même génération que nous, s'il est de génération postérieure ou antérieure, on doit puiser auprès de lui ce qu'il peut donner. Là, on saisit comment la grandeur d'âme va permettre. Et ça doit nous éveiller tout le temps à de nouvelles rencontres, découvrir parfaitement un homme qui se dit fils de Dieu. Un homme qui a une expérience de vie qu'on n'a jamais eue. Nous parlons de ce que nous connaissons. Mais ça, c'est très philosophique. Mais comme il connaît un monde qui échappe au philosophe, lui-même, sa philosophie échappe au philosophe. Mais c'est une philosophie divine. Très extraordinaire quand Jésus dit ça. Nous parlons de ce que nous connaissons. Et l'homme, par l'intelligence, est ouvert à quelque chose qui est au-delà de son expérience. C'est le propre du philosophe. Surtout d'un philosophe réaliste. Il est normal qu'il regarde dans l'homme chrétien ce qui fait que cet homme chrétien devient si intéressant, parce qu'il a voyagé dans un pays que l'autre n'a pas vu. Et il connaît ce pays-là. Nous le connaissons dans la foi. ils viennent d'un autre pays, puisqu'ils viennent du ciel. Ils viennent d'un lieu où il n'y a plus de faute, où il n'y a plus de misère, d'un lieu magnifique. Et ils viennent nous en parler. Alors, nous pouvons les interroger. Ils vont saisir ça comme quelque chose qui peut être annexe à notre philosophie. Vous voyez ? Et qui n'est pas apologétique, mais qui reste philosophique. Toutes les expériences de Jésus peuvent être vues philosophiquement. Toutes. Comme tout l'Ancien Testament peut être lu philosophiquement. Et on a avantage, quand on fait sa philosophie, de lire des livres comme cela. De les lire non pas du tout avec la foi, mais de les lire avec notre intelligence. C'est merveilleux de lire avec notre intelligence sans son. Parce que là, on a l'homme fort. On a l'homme qui est astucieux et qui nous aide à découvrir. Et on a là un homme qui nous conduit beaucoup plus loin qu'un homme. Vous voyez, faire un livre philosophique qui montre comme un grand désir, un grand volcan d'un philosophe qui connaît autre chose que l'homme et qui, par le fait même, remet l'homme à sa vraie dimension. Je crois que c'est comme cela il y a une sensibilité à avoir et une ouverture à avoir qui est humaine. Jésus est l'homme. Alors, parce que Jésus est l'homme, il intéresse tous les hommes. Très exigeant pour l'homme. Et c'est du reste pour ça que souvent beaucoup l'abandonnent. Mais alors qu'ils aient le courage de dire « Je n'ai pas le courage de suivre Jésus. C'est trop exigeant pour moi. Ça va trop loin. » Puis ça devrait intéresser tous les hommes. Dès que vous avez un homme curieux, un homme un peu philosophe, ça l'intéresse. Mais il faudrait pouvoir montrer cela, parce que il faut les aider, et il y en aura de plus en plus, puisque de fait l'éducation actuelle fait que beaucoup n'entendent plus parler de Jésus et qu'arrive à 15 ans, 16 ans, 17 ans, quelques fois plus tard encore. Je voyais quelqu'un l'autre jour qui m'a dit: j'ai connu Jésus à la fin de mes études. Il y avait d'autres chrétiens avec vous. Ah oui, mais ne parlez jamais de Jésus. Ne parlez pas de ce qui les animait, de ce qui était leur raison d'être. Donc vous voyez, cette éthique chrétienne doit rester ouverte pour vous, comme un champ.